France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les illustrations des âmes mortes de Gogol, de la Bible, des fables de La Fontaine et de bien d'autres éditions, aux côtés de sa peinture, de ses vitraux et de ses céramiques, la gravure, lithographie ou eau-forte, occupent une place importante dans l'œuvre de Marc Chagall. En 1980, ce versant un peu méconnu du travail de Chagall, dont on ne retient trop souvent que les productions colorées et de grand format, une exposition le proposait au public, à travers notamment les illustrations des psaumes de David au musée Chagall de Nice, qui était encore musée national, mais sage biblique. Une exposition que Pierre Provoyeur, conservateur du musée, interrogé par François Le Targa, présentait aux auditeurs de Présence des Arts. Présence des Arts, l'œuvre gravée de Marc Chagall par François Le Targa, diffusée la première fois le 3 mars 1980 sur France Culture.
Pierre Provoyeur, nous sommes habitués à venir vous voir ici dans ce merveilleux musée dont vous avez la charge en été pour des expositions prestigieuses. Et nous avons encore en mémoire ce Venise que j'ai tant aimé l'été dernier et soudain une exposition d'hiver. C'est assez rare, je crois.
Oui, c'est la seconde fois que nous organisons une exposition en hiver. Nous avions montré en 1975 le livre que Marc Chagall avait illustré de lithographie à partir de La Tempête de Shakespeare. Et au fond, je me réjouis beaucoup que nous puissions, de temps en temps, montrer des choses semblables au public de l'hiver. Ce sont essentiellement les Niçois, certes, mais ce sont aussi les gens qui passent toute l'année dans ce musée, il y en a. Cette exposition se fermera au mois de juin et je sais que notamment tous les touristes qui affectionnent notre ville viendront voir cette exposition à Pâques par exemple. Donc si vous voulez, c'est un peu pour nous l'occasion de mélanger deux publics. Beaucoup plus, c'est vrai, que nous ne le faisons en été. Et s'il m'était permis de rêver, je souhaiterais que nous puissions en hiver aussi monter de grandes expositions telles que celle de Venise que vous venez d'évoquer. Mais ai-je besoin de vous le dire ? C'est d'abord une question d'argent. Vous savez aujourd'hui ce que coûte une grande exposition temporaire. Je pense qu'il est presque impossible à un musée aujourd'hui en province d'organiser deux très grandes expositions. Il suffit d'observer la vie culturelle en France dans toutes les grandes villes. N'est-ce pas ? Je pense à Bordeaux, je pense à Marseille. Voici des villes qui ont une grande exposition chaque année. Un point, c'est tout. Alors, bien entendu, l'autre problème est celui, si tant est d'ailleurs que ce soit un problème, des conditions particulières dans lesquelles ce musée vit. Nous avons pour obligation, et je m'en réjouis personnellement, d'organiser une exposition sur un thème spirituel. Des thèmes spirituels, il y en a à la fois beaucoup et très peu. J'entends qu'il y en a beaucoup sur le plan intellectuel, sur le plan de la connaissance, mais il y en a peu qui soient très publics. Et nous ne voulons pas nous jeter dans des expositions trop restreintes, trop particulières, trop scientifiques. Donc, au fond, je suis plutôt heureux de traiter un grand sujet spirituel par année. Il me semble que cela est bien, c'est équilibré, si vous voulez. Maintenant, quand il s'agit de montrer, comme nous le faisons cet hiver, Marc Chagall, alors, grâce à sa générosité et à celle de Madame Chagall, nous pouvons montrer des œuvres qui sont spirituelles et qui ont été choisies comme telles. Nous n'avons pas montré dans cette exposition des psaumes de David des œuvres qui ne seraient pas inspirées par le texte biblique.
Et alors une chose très importante sur le plan de l'histoire de l'art, C'est justement cette exposition d'estampes, dirons-nous, pour couvrir du terme général ce qui est aussi bien la gravure que les monotypes, que les lithographies, etc. Car pour le grand public, pour nous tous d'ailleurs, sauf vous bien sûr qui êtes dans le Saint des Saints, Chagall c'est la couleur. Et là, on a une œuvre en noir de Chagall, une œuvre très forte, et une œuvre gravée. J'aimerais qu'avec vous, nous fassions justement le tour de cette histoire, car c'est l'histoire d'un livre, c'est l'histoire d'un livre donc édité, d'un livre qui est là en parchemin, dessus en parchemin superbe, d'une sobriété extraordinaire, psaume de David, il n'y a même pas le nom de Chagall sur la couverture, on le trouve à la première page, à la deuxième page on trouve la dédicace à Madame Chagall, et commence alors cette promenade de textes choisis et de gravures très étonnantes qui s'y rapportent. Alors, Chagall, l'œuvre en noir de Chagall, c'est peut-être un des côtés moins connus de ce grand peintre.
Oui, forcément parce que je crois que la gravure a toujours été une technique promise au confidentiel. La gravure, c'est un art de multiplication de l'image et c'est souvent un art d'illustration. C'est comme ça qu'au fond, elle est née à Venise au début du XVIe siècle. Là encore, nous nous retrouvons autour d'un sujet dont nous avions parlé ensemble il y a quelque temps. Je crois aussi que la gravure est un art d'austérité parce que graver, c'est un vrai travail. C'est un travail qui physiquement suppose beaucoup de force. La gravure au burin, d'abord, est vraiment quelque chose qui demande un poignet, très sûr. Mais même la gravure à la pointe sèche, si, comme Chagall, on veut lui donner de temps en temps un impact, une force, si vous voulez. J'entends qu'il y a un rapport entre la force du poignet et la force de l'image obtenue. Bien. Maintenant, aussi, comme il pratique beaucoup la gravure à l'eau forte, il y a la tendresse. Parce qu'il s'agit de tout petits traits que Chagall appelle des picotis. Et ce sont de petites traces qui permettent à Chagall de remplir au fond ses préoccupations, si vous voulez, les plus fréquentes, les plus intimes. Ce qui lui importe, c'est de créer sur le cuivre, donc sur la feuille de papier, une vibration de lumière et d'ombre extrêmement subtile. D'où il fera émerger les figures qui, là aussi, sont choisies parce qu'elles lui semblent essentielles et qui sont, le plus souvent, ici bien sûr dans les psaumes de David, les anges, les hommes et les personnages du monde biblique. Donc, ce procédé de gravure à l'eau forte est probablement, et on le voit bien parce que Chagall le pratique depuis très longtemps, celui qui convient le mieux quand il s'agit d'édition, à son âme. C'est ce procédé qu'il a choisi pour éditer la Bible, qu'il a choisi pour éditer les Fables de La Fontaine, qu'il a choisi pour éditer deux autres livres récents, des illustrations pour un texte d'Aragon et des illustrations pour un texte d'André Malraux. L'eau-forte, pour Chagall, c'est au fond une ancienne compagne, si vous voulez, et il la possède, je crois, entièrement. Maintenant, cette fois-ci, dans les psaumes de David, il l'a complété d'un fond d'aquatinte, c'est-à-dire une plage colorée qui occupe la surface entière du cuivre, mais que là aussi il a modulé en créant des surfaces plus ou moins intenses dans le bel ocre qui soutient l'image en noir. Et ce faisant, il crée une seconde vibration, comme une espèce de brouillard changeant d'un côté à l'autre de la planche.
Ce qui surprend agréablement, bien sûr, c'est justement le côté mouvant, le côté vivant. On est habitué, bon, chez Chagall, au grand éclat de la couleur, n'est-ce pas, au grand maniement des grandes surfaces. D'ailleurs, ce musée est plein de grandes toiles. Et là, sur un petit format, on trouve, qui est donc le format d'un livre, nous reparlerons tout à l'heure du livre, on trouve justement, en noir et blanc, ou en noir et ocre, si vous voulez, on trouve tout un mouvement qui vient non seulement de la disposition de la mise en scène ou de la mise en page de l'élément choisi, de l'illustration choisie du psaume, mais, c'est-à-dire petits personnages qui paraissent secondaires et qui sont très importants et qui ont toute une histoire à raconter, mais le mouvement ou du personnage central ou du thème central.
Vous avez dit un mot que je trouve très important dans le cas présent, monumental. Le monumental, c'est pas ce qui est très grand en taille, c'est, je crois, ce qui est très largement animé d'un mouvement spirituel, d'abord. Et nous pensons, devant des petites planches comme celle-ci, aux miniatures de la fin du Moyen-Âge. Les œuvres d'Étienne Chevalier sont elles aussi monumentales. Et ce n'est pas parce qu'elles mesurent 15 cm de haut qu'elles sont moins monumentales. Je crois que c'est très important. Le parti que constamment Chagall adopte dans ses gravures, c'est d'abord de suggérer un drame spirituel. Et j'entends drame presque au sens théâtral du mot, si vous voulez. C'est une histoire, chaque planche est une histoire, même la rencontre de plusieurs histoires à la fois, et qui toutes nous parlent de ce lien que l'homme entretient avec le divin. Alors voilà ce qui est monumental d'abord dans ces planches. Maintenant, bien entendu, il y a la composition même de la planche, qui est toujours maîtrisée. Vous aurez sûrement été frappé par la diversité de ces compositions d'une planche à l'autre. Très proche d'ailleurs de l'ensemble des grands tableaux du message biblique, tantôt la diagonale, tantôt des compositions fermées, mais toujours un équilibre réalisé. Et puis alors, quelque chose qui est très important chez Chagall, qui est le sens de la profondeur. On s'enfonce toujours, et s'il y a une composition en plan, il y a aussi une composition en profondeur. Ça, c'est très important. Alors tout cela lui permet de créer des planches stables, chargées, si vous voulez, d'un poids de monumentalité, comme vous le disiez.
Alors, on ne peut pas évidemment raconter chaque planche. Bon, on retrouve, vous avez dit, les grands thèmes qui sont les anges, qui sont les tables de la loi, qui sont les signes hébraïques, l'étoile de Salomon, etc., etc. Mais vous m'avez fait remarquer, lorsque j'ai visité avant d'enregistrer d'ailleurs cette exposition avec vous, vous m'avez fait remarquer quelque chose de très curieux sur justement l'un des psaumes. On sait que la religion hébraïque n'a pas le droit, je crois, de représenter Dieu lui-même, physiquement parlant, par la forme d'un visage. Bon, ce sont les tables de la loi, c'est la Torah, ce sont les représentations de Dieu, les écrits de Dieu, les dits de Dieu, qui prennent la place de toute représentation physique. Or là, chose étrange, on a à côté de l'étoile du sceau de Salomon, on a un visage et qui correspond donc au texte. Le Seigneur est dans son temple saint, le Seigneur siège dans les cieux, ses yeux regardent la terre, ses paupières interrogent les hommes. Et là, il l'a représenté sans le représenter.
En fait, si la religion juive est iconoclaste, il ne faut pas oublier que Chagall a pris certaines distances avec elle et que dans le message biblique, par exemple, il ne s'est pas montré un juif orthodoxe du tout. Il représente très souvent le Christ, qui n'est pas, par exemple, ce que j'appellerais une divinité reconnue de la religion judaïque. Attention, en fait, pour Chagall, l'approche de la Bible est d'abord poétique. Donc, pour lui, les personnages, les symboles qui s'attachent, enfin qui naissent du texte, doivent d'abord avoir une signification poétique, donc universelle. Et ici, lorsque il va non pas illustrer les psaumes, mais donner aux psaumes un équivalent poétique, il va donc être beaucoup plus libre sur le plan confessionnel que si il voulait donner à son tour un enseignement religieux. Il ne s'agit évidemment pas de ça. Ce qui lui importe, entre autres thèmes, dans les psaumes de David, c'est ce constant dialogue entre l'homme et la divinité. Disons entre l'homme et l'au-delà. Non pas parce que l'au-delà existe ou n'existe pas. Je crois que Chagall se garde bien de prendre position sur un tel problème. Mais parce qu'il y a dans l'esprit de l'homme cette constante préoccupation, à quoi est-il relié ? Et lorsque vous avez lu tout à l'heure dans le texte « Ses yeux regardent la terre, ses paupières interrogent les hommes », vous avez d'abord à faire, je crois, un texte poétique. Or, la figure que Chagall a suspendue au-dessus de cette composition n'est pas du tout la figure d'une divinité, c'est une espèce de grande lune avec presque un masque de carnaval ou un grand lampion. C'est une figure très allègre, très joyeuse et qui fait sourire, mais qui reste chez Chagall très incertaine, très imprécise. Les yeux sont dessinés plusieurs fois, la bouche semble sourire, mais pourrait aussi bien s'irriter, si vous voulez, et le visage lui-même palpite. Eh bien, cette figure, elle est l'équivalent poétique dans le monde de Chagall de ce que le roi David chante. Et il ne s'agit pas de représentation, mais bien d'équivalence, une fois de plus, poétique. Là est la marge très subtile, je crois, qui sépare un peintre préoccupé de spiritualité d'un homme qui serait simplement un fidèle d'une religion. L'autre thème important dans les psaumes de David, puisque je viens d'en parler, après donc ce lien entre l'homme et Dieu, l'autre thème important de ces psaumes, c'est évidemment le destin même de David. Et alors là, on peut dire d'une planche à l'autre, puisque tout à l'heure vous me demandiez d'évoquer l'histoire qui est racontée dans ce livre, d'une planche à l'autre, nous la voyons se dérouler. David est d'abord un homme, bon et mauvais à la fois, partagé dans sa chair même entre ces deux destins. Et bien entendu, dans cette situation tragique, il commet des fautes et aussitôt s'en repent. Et s'en repentant, demande pardon. Et c'est parce qu'il demande pardon qu'il se met à chanter. Donc, nous sommes devant un personnage qui est humain, trop humain, mais qui en même temps va s'élever au-dessus de sa condition par le chant et donc le poème. De là à penser que pour Chagall, le roi David est en quelque sorte la métaphore de l'artiste, il n'y a qu'un pas. Pour lui, le roi David et le peintre sont dans la même situation. Tous deux contemplent leur condition ou, si vous voulez, la destinée humaine en général, et à partir d'elle, non seulement de sa description, mais des rêves qu'elle peut provoquer, créent le poème. Donc, je crois que si Chagall, après avoir d'ailleurs tant peint le roi David, il y a des tableaux innombrables, il y a des lithographies, il y a des dessins, dans le message biblique, il est partout présent, le Cantique des Cantiques, ces cinq grands tableaux du message biblique, lui sont dédiés. Après avoir donc tant peint le roi David, voilà Chagall qui illustre, et j'emploie à nouveau le mot avec restriction, mais je n'en trouve pas de meilleur et de plus simple pour l'instant, Chagall illustre les psaumes de son ange tutélaire, si vous voulez. Et ces psaumes de David, pour moi, c'est un petit peu l'accomplissement d'un vieux rêve, celui d'être à son tour le roi David. Et s'il ne prend pas la harpe, il prend ses pinceaux et son chevalet, et puis en avant. Il va lui aussi écrire ses psaumes de David, mais il les écrit avec ses cordes, avec ses doigts, c'est-à-dire avec la gravure. Et il aurait aussi bien pu le faire dans une série de peintures. Il a préféré un cycle dans un livre parce qu'à l'origine, les psaumes de David, c'est un livre.
Nous retrouvons d'ailleurs, au fur et à mesure que nous nous promenons dans cette exposition, tout le bestiaire de Chagall, tous les personnages de Chagall qui reviennent comme ça, comme des amis fidèles. Enfin, il y a cet âne extraordinaire avec un coq sur la tête, il y a bon... Et ce ne sont pas des répétitions pour autant. l'objet, si l'on peut dire, ou l'animal, ou le sujet, est le même et devient tout de même autre chose. Il promène avec lui tout un monde, que ce soit dans la gravure ou dans ses toiles.
Oui, parce que comme ça, il est beaucoup plus libre, si vous voulez, en ayant éliminé le sujet, de créer l'œuvre d'art, de nous parler de peinture, de nous parler de gravure, de nous parler du plaisir de créer, au fond, des images différentes à partir d'un sujet qui n'a pas vraiment d'importance. Lorsque Chagall dessine un ange, ah, c'est très important un ange pour lui, c'est une créature poétique, et même pour nous, c'est une créature tout à fait surnaturelle, qui peut faire sourire parce qu'elle paraît irréelle, mais qui peut aussi profondément émouvoir. Soit le discours, si vous voulez, contenu, l'histoire racontée par l'ange, c'est important, mais c'est beaucoup moins important que d'essayer chaque jour de recréer un ange avec de la gouache blanche, avec de la gouache rouge, avec de l'huile, avec de l'encre, avec peut-être bientôt de la pierre, de la mosaïque ou du vitrail. Et je pense qu'il faut avoir dans l'esprit le métier des artistes du Moyen-Âge, ou même de la Renaissance. Pensons à Bellini, par exemple. Giovanni Bellini va peindre pendant toute sa vie des madones. Il ne fera, on peut dire, que ça. Eh bien, ce qui est important, ça n'est pas de savoir ce que telle ou telle madone nous raconte de plus que l'autre. Ce qui compte, c'est de voir comment, dans tel ou tel tableau, il a trouvé une variation nouvelle. Et c'est ça qui est émouvant, je trouve. Moi, chez Chagall, ce qui m'émeut toujours, c'est cette volonté de remettre constamment sur le métier son ouvrage et, à travers des thèmes qui sont convenus d'avance, de trouver de nouveaux éclairages, si vous voulez. Je pense à, par exemple, cette gravure de David et Bethsabée que nous avons sous les yeux. David et Bethsabée, d'abord, c'est Rembrandt, ce sont toutes sortes de souvenirs. Je crois que là, particulièrement, Chagall s'en souvient, avec cette draperie qu'il a tendue derrière les amants. Mais c'est une nouvelle composition, avec une Bethsabée un peu plus petite que son roi David, avec un roi David qui a l'air complètement hirsute et qui est plein d'un humour délicieux, d'une verve délicieuse. Et puis, il y aura certainement demain encore beaucoup de David et Bethsabée chez Chagall, parce qu'il n'épuise jamais le thème, puisque de toute façon, le thème est universel et ne l'intéresse pas, si vous voulez, pour tout ce qu'il y a de confessionnel ou tout ce qu'il y a de presque rituel derrière ces personnages. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir, à l'occasion de la description de deux amants, l'occasion de faire de la gravure. Et puis voilà, c'est déjà beaucoup.
Et puis, une découverte dans cette exposition, qui sont les monotypes. On savait qu'ils existaient, qu'il y en a un certain nombre. On les a très rarement vus, peut-être même jamais, en tout cas, ceux qui sont présentés ici, et qui sont, alors là, très surprenants. On revient un peu à la couleur. Et pourtant, la couleur n'a pas grande importance dans ces monotypes. La qualité du noir profond, qui est le fond quand même de ce travail, sert à rehausser des passages de couleur. Mais ce n'est pas la couleur éclatante habituelle de Chagall que nous avons dans la grande rosace, là, en face de nous. C'est une couleur beaucoup plus sombre, beaucoup plus veloutée, une couleur qui a une peau.
Oui, il y a en fait deux sortes de monotypes dans cette exposition. Certains sont extrêmement clairs et très semblables à ceux que l'on voit le plus souvent de Chagall, de grands tableaux très colorés, très lumineux. Mais il y en a aussi de très sombres, en effet, comme vous le dites, avec des éclats un peu fuligineux. Et cela se rattache à une autre peinture de Chagall, mais qui existe également très largement représentée. Il y a de très grands tableaux noirs, très tragiques. Chagall, peintre de la couleur, c'est une mythologie que pour ma part j'accepte volontiers, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, n'est-ce pas ? Et devant ces grands monotypes noirs, je trouve que l'on parle aussi de violence, de quelque chose de tragique. Alors je voudrais tout de suite dire un mot de la technique du monotype, parce qu'elle a été pratiquée par Degas et depuis pratiquement plus. Chagall renoue avec cette technique. Vous voyez que non content d'expérimenter diverses choses, il va même remettre à jour d'anciennes techniques. Il s'agit pour lui de déposer sur une plaque de cuivre une image à la peinture à l'huile. Ensuite, on va presser, comme on le ferait pour tirer une gravure, cette plaque de cuivre, encore très fraîche, sur une feuille de papier préalablement humidifiée. Et toute l'huile, tout le dessin, si vous voulez, toute la peinture, va se reporter sous l'effet de la pression dans le papier. Quel est l'intérêt? Eh bien, d'abord, de permettre une fusion un peu délayée de l'huile dans ce papier mouillé et de donner à l'huile une transparence encore plus grande. Et ça, c'est une préoccupation de Chagall. Nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure de la lumière et de la vibration. Le papier et l'huile associés vont permettre de suggérer cette profondeur, cette lumière qui vient de très loin derrière. Bien. Quel est l'inconvénient? C'est qu'il faut aller très vite. Il faut ne pas laisser, si vous voulez, à l'image, sur le cuivre, le temps de sécher. Et il faut donc donner tout de suite l'image définitive, lui donner son impact, lui donner sa composition. Alors là, personnellement, je suis persuadé qu'il s'agit vraiment, dans l'histoire du monotype, d'une étape essentielle, car Chagall a travaillé avec une maestria, si vous voulez, tout à fait étonnante, et on le voit dans chaque planche. Il y a des planches, je pense à celle-ci par exemple, Moïse et les tables de la loi, où il n'a rien négligé des détails, où il a donné son frémissement à la barbe de Moïse, où il a créé derrière une foule de personnages, des anges dans le ciel lui-même est à la fois fait de nuit et de jour, et puis il y a des éclats de couleurs qui tombent sur certaines parties du personnage, pas sur d'autres. Tout ça est composé en toute hâte, mais avec une rigueur, avec un sens de la composition remarquable. Bien. Donc, le monotype, technique étrange, technique qui a excité Chagall. Il s'est senti provoqué par elle et il s'est dit une nouvelle fois, je dois y arriver. Et c'est constant chez Chagall, c'est aussi vrai dans le vitrail, il le dit volontiers, pour moi un vitrail c'est l'épreuve du feu et puis il faut vraiment être à la hauteur. Alors ce que les Américains appelleraient un challenge, un défi si vous voulez, eh bien voilà ce qu'il aime relever. Et dans le monotype il s'y est livré. Alors il en a donné une quantité considérable, puisque au catalogue que Gérald Kramer a dressé de ses monotypes sur 5 années, il a obtenu en quelques semaines à peine 305 monotypes de l'artiste et nous en montrons ici 10 qui n'ont jamais été montrés. Il en figure quelques-uns également à New York en ce moment dans une autre exposition des psaumes de David au musée d'art moderne. Et puis voilà, on n'a jamais rien montré d'autre et tout cela reste à découvrir. Et on s'apercevra qu'une fois de plus, Chagall manifeste cette permanence de l'habileté technique et cette science du renouvellement des lumières, des couleurs et des formes.
Tout cela traduit une éternelle jeunesse de Chagall, car ses œuvres sont extrêmement récentes. Et je voudrais qu'on revienne alors au livre proprement dit, ce beau parchemin blanc où il n'y a écrit que les psaumes de David. Alors ce livre est une rareté, est une chose qui sort de l'ordinaire.
Oui, en fait... Il y a tout autour de Chagall une équipe d'artisans qu'il ne voudrait pas que l'on oublie. Le relieur, qui a fait en effet un très beau travail. Bien entendu, le pressier, Jacques Frélot, qui à l'atelier La Courrière mène un très beau travail depuis longtemps et qui possède une grande science de l'impression, d'impression de toutes sortes. C'est à lui notamment que l'on doit le tirage des fonds d'aquatinte si subtil. Et en même temps, l'imprimerie Fekier et Baudier, connue pour ses caractères typographiques d'une remarquable noblesse. Donc, pour faire ce livre, il a fallu autour de Marc Chagall la réunion de quantité d'énergie et de talent, comme d'ailleurs à chaque fois que Chagall a voulu faire un livre. La tempête que nous présentions en 1975 avait été aussi admirablement imprimée, et je dois dire que je regrette beaucoup de ne pas avoir eu entre les mains, lorsque j'étais tout petit, de pareils livres pour découvrir la tempête ou pour découvrir la Bible. Je les aurais certainement lus avec encore plus d'attention. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus les hommes qui sont responsables de la coordination de ces entreprises. Et je pense d'abord à l'éditeur Gérald Kramer qui, depuis 1958, si mes souvenirs sont bons, travaille pour Marc Chagall et a édité notamment le grand livre de ses poèmes. Nous en montrons un exemplaire car il était intéressant, à côté de ses gravures à l'eau forte, à l'aquatinte et de ses monotypes, de montrer aussi des gravures sur bois. Voilà encore une technique que Chagall a expérimentée.
C'était l'œuvre gravée de Marc Chagall avec Pierre Provoyeur au micro de François Le Targa dans Présence des Arts, diffusée la première fois le 3 mars 1980 sur France Culture.